profilita. Ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Et la prédication portera sur les versets 1 à 11. Donc, je vais commencer par lire ces 11 versets. Philippiens, chapitre 2, verset 1. J'ai une traduction qui est peut-être un petit peu différente de la vôtre, mais je vais essayer de l'expliquer sur cette différence. Philippiens, chapitre 2, verset 1. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Vous voyez, ici Paul est en train de faire une grande liste de plein de choses, c'est pas une liste exhaustive, il est simplement en train de dire, puisque vous avez toutes ces choses en commun, donc puisque vous avez expérimenté quelque chose de la présence de Christ dans vos vies, etc., puisque vous avez le même esprit, alors, verset 2, rendez ma joie parfaite, en vivant en plein accord. Et peut-être afin de vivre en plein accord, ou afin d'avoir une même pensée, mais c'est vraiment en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Verset 3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et là, on arrive au verset 5, qui dit, peut-être dans votre traduction, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Il s'agit vraiment, la pensée, ça semble très intellectuel, très cérébral, mais il s'agit vraiment d'un état d'esprit, d'accord ? Une attitude. Donc, dans ma traduction, ça a été traduit comme ça, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà le texte qui servira de base pour la prédication. J'aimerais juste encore qu'on prie avant. Seigneur, nous reconnaissons notre grand besoin de toi face à un tel passage de ta parole qui nous met face à des mystères incompréhensibles pour nous. Nous te supplions, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse et ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir un peu plus de ta majesté, un peu plus de ton amour révélé en Christ, pour que nous puissions t'aimer plus aujourd'hui et ressembler toujours plus à notre Sauveur bien-aimé. Nous te prions ces choses-là dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a une statistique qui est assez parlante, je n'ai pas les chiffres vraiment exacts, mais c'est pas important. Une statistique assez parlante qu'on m'a communiquée récemment, on m'a dit que la grande majorité des scissions qui interviennent dans une église, des églises qui font naufrage, qui explosent littéralement, la grande majorité de ces scissions ne sont pas dues à des problèmes doctrinaux, c'est pas seulement parce que les personnes ne sont pas d'accord sur tel ou tel point de doctrine, et c'est pas tellement dû non plus à des problèmes éthiques, c'est pas seulement parce que, à cause du comportement peut-être immoral de telle ou telle personne dans l'église, ça peut être des facteurs, mais la raison principale, c'est que ces scissions sont généralement dues, on pourrait dire purement liées à des problèmes relationnels, de vivre ensemble, simplement. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'être dans une église pour se rendre compte, c'est le cas dans le cadre du travail, c'est le cadre dans le cadre de la famille, n'est-ce pas? On voit très bien cela partout dans tous les contextes. Et c'est une statistique qui est assez parlante pour ce qu'on voit aujourd'hui dans ce passage, parce que dans l'église qui est à Philippe, à qui Paul écrit, il n'y a pas vraiment de problème doctrinaux, il n'y a pas vraiment de faux enseignements que Paul doit corriger, comme il le fait lorsqu'il écrit une lettre, par exemple, aux chrétiens qui sont à Galates. Il n'y a pas vraiment de problème éthique dans cette église, des comportements immoraux que Paul doit corriger, comme il le fait lorsqu'il écrit sa lettre aux Corinthiens, par exemple. Vous voyez, sur le papier, on pourrait dire que c'est une église qui va plutôt bien. Mais Paul, et on le voit dans ces premiers versets qu'on a lus, Paul n'est pas naïf. Il sait que même dans une église qui va plutôt bien, comme la nôtre par exemple, il n'y a pas des crises apparentes en tout cas, même dans une église qui va plutôt bien, il y a toujours le danger de la discorde sur le plan relationnel, de ne plus être capable de vivre ensemble. Je ne sais pas si vous avez été attentif, mais est-ce que vous avez vu quel est peut-être le problème sous le problème? Quelle est la raison de ces problèmes relationnels dans l'Église? Je ne sais pas si vous avez été attentif à ça. Il y a, on pourrait dire, une sorte de quelque chose qui est plus profond que le manque d'unité apparent. On voit dans les premiers versets, c'est le problème de l'orgueil. Hein, c'est l'orgueil. Et donc c'est vraiment cette question d'orgueil dans nos relations les uns avec les autres que Paul va adresser et qu'on va essayer d'explorer un peu ensemble ce matin. Mais juste avant qu'on en vienne vraiment au chapitre 2, je propose juste de remettre un tout petit peu ce chapitre dans son contexte, parce que ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que j'ai prêché sur la fin du chapitre 1, et la plupart d'entre vous n'étaient peut-être même pas là. Et donc vous ne savez pas que on est en fait arrivé ici au cœur de l'Épître. C'est le cœur du message de Paul pour cette Église. On avait vu au chapitre 1, verset 27, la dernière fois, que Paul, en fait, a une chose à dire. Mais s'il y avait vraiment une seule chose qu'il fallait dire à ses croyants de Philippe, s'il y avait une seule chose qu'il pouvait nous dire à nous, ce serait ça. Chapitre 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Je vous ai montré que la meilleure traduction de ce verset, on le trouve dans la Bible du Semeur, qui dit « Menez une vie digne de Christ en vrai citoyen de son royaume. » Il y a cette idée de citoyenneté ici. Si vous jetez un coup d'œil au chapitre 3, verset 20, on a exactement la même expression. Paul dit « Quant à nous, notre droit de cité, notre citoyenneté, au chapitre 3, verset 20, notre droit de cité est dans le ciel. » D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ces deux versets, en fait, c'est comme deux parenthèses, 1 verset 27, 3 verset 20, comme deux parenthèses, et le thème de la citoyenneté traverse toutes ces sections, qui est vraiment le cœur de l'Épître. Et le message de Paul pour nous, il est très simple. Il est en train de nous dire, vous, si vous avez placé votre confiance en Christ, vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Ça y est, c'est ça, vous avez le passeport, on pourrait dire, ça y est, vous l'avez. Ça, c'est vraiment son message ici. Et au chapitre 2, il va un tout petit peu plus loin. Il nous dit un peu la chose suivante. En fait, quelle que soit notre nationalité, c'est vrai pour nos nationalités présentes, hein, ici, ce qu'on a sur notre passeport, quelle que soit notre nationalité, il y a un état d'esprit. Il y a une manière d'être, il y a une attitude qui correspond plus ou moins à notre citoyenneté, à la couleur de notre passeport. Je ne vais pas vous donner, ça parle de tous nos préjugés, mais si vous pensez aux Anglais, je ne sais pas si vous avez directement à l'esprit, pour moi un Anglais c'est quelqu'un assez froid peut-être, distant, c'est des préjugés, c'est un gros trait, mais assez rationnel. Si on pense aux Allemands, pourtant je suis marié avec une Allemande, on se dirait, voilà, ils sont assez carrés peut-être, un peu austères, assez expéditifs comme ça. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils diraient de nous, mais c'est mieux de ne pas leur demander. Vous voyez, quelle que soit notre nationalité présente ici, il y a un état d'esprit, il y a une manière d'être, une attitude qui correspond plus ou moins à notre pasteur. Et ce qu'on voit au chapitre 2, et ça c'est tout le message du chapitre 2, c'est qu'en tant que chrétien, nous sommes aussi appelés, on devrait être animé d'une attitude qui correspond, qui caractérise un citoyen du royaume de Dieu. Et cette attitude, bien sûr, elle est, on peut dire, parfaitement exprimée par le premier citoyen du royaume, par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au verset 5, Paul dit à ce suivant, il dit, verset 5, que votre attitude, on peut dire sous-entendu, que votre attitude en tant que citoyen du royaume de Dieu, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre pour nous ce matin. Dans nos relations les uns avec les autres, que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc, j'aurai deux parties à mon message ce matin, très simplement. On va d'abord regarder et considérer l'attitude de Christ, c'est les versets 6 à 11. Donc, je vais commencer par la fin, parce qu'on reviendra au verset 3 et 4 pour considérer l'attitude du chrétien à la lumière de ce qu'on aura vu dans la première partie. Et vous verrez, la deuxième partie sera beaucoup plus pratique peut-être que la première. Mais donc tout d'abord, l'attitude du Christ. Et j'aimerais relire les versets 6 à 8. Regardez encore une fois les versets 6 à 8. Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. J'ai bien conscience qu'on est ici face vraiment à des mystères qui nous dépassent complètement. Comment est-ce que le Dieu éternel, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, comment est-ce que ce Dieu peut venir dans notre temps, dans notre temporalité? Comment est-ce que ce Dieu parfaitement saint peut venir dans notre monde de souffrance, de mal? C'est un peu comme de regarder, de fixer le soleil des yeux. On est ébloui, d'accord? On peut pas vraiment parler adéquatement de ce qui nous est décrit ici. Je crois que c'est pas pour rien, c'est pas anodin. En fait, ces versets 6 à 11 sont un chant. C'est un chant. En fait, très probablement que Paul cite un cantique qui était chanté dans l'église des premières années, peu de temps après la mort de Jésus-Christ, comme pour nous dire un peu, ces choses-là, on ne peut pas en parler. On ne peut que louer. On ne peut que chanter. On ne peut que adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, verset 6, vous voyez, la question, c'est pas est-ce que Jésus est Dieu ou pas. Il est de condition divine, c'est au présent. Mais la question que soulève ce verset 6, c'est, lui qui est de condition divine, est-ce qu'il a cherché, on peut dire, de tirer profit de son égalité avec Dieu, pour son propre intérêt, pour lui-même, est-ce qu'il a cherché à tirer profit de ce statut-là? Et clairement, il nous a dit ici qu'au lieu d'utiliser son égalité avec Dieu pour son propre intérêt, pour lui-même, au détriment des autres, Christ a renoncé à un statut qui était, à juste titre, le sien. Et je crois qu'on peut aller un peu plus loin en disant la chose suivante. Je crois qu'on peut dire que c'est puisqu'il est de condition divine. Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Parce qu'il est Dieu, il s'est humilié. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver pour lui. Si vous réfléchissez avec moi, si on retourne dans l'histoire humaine, tout au début, on se rappelle la création de Dieu, de l'homme et de la femme, il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour avoir autorité sur la création, et il leur a permis de vivre dans l'intimité avec lui tant qu'ils ne désobéissaient pas à cette condition qu'il avait passée de ne pas manger de l'arbre du bien, pour discuter de la connaissance du bien et du mal. Et je ne sais pas si vous vous rappelez quelle a été la ruse du diable, du serpent, pour entraîner l'homme dans la désobéissance et la rébellion contre Dieu. Vous vous rappelez quelle était la stratégie? Voilà, donc il a essayé de remettre en question le commandement de Dieu. Il a suggéré, on peut dire, que Dieu avait peut-être pas une motivation tout à fait juste en plaçant cette condition-là. Il a dit la chose suivante, il a dit: Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous voyez, Adam, qui n'était qu'un homme, créé à l'image de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu, mais qui n'était qu'un homme. Il a voulu être Dieu. Il a cherché à se saisir d'un statut qui n'était pas le sien. C'est pas, voilà, ça s'est pas arrêté, ça continue aujourd'hui. On voit bien dans le quotidien, on a cette tendance qui reste, c'est de vouloir vivre dans une indépendance de Dieu, de vouloir se débrouiller par nous-mêmes. Hein. Mais Christ, à l'inverse, lui, qui pourtant est le Fils éternel de Dieu, de toute éternité, lui a choisi de renoncer à ce statut qui était pourtant légitimement le sien. Et par là, vous voyez, c'est ça qui est fort, par là il nous montre ce qu'Adam aurait dû être, il nous montre ce que ça veut dire qu'être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, il nous montre ce que ça veut dire qu'être Dieu. Voilà pourquoi on peut dire c'est parce qu'il est Dieu que Christ a choisi de renoncer à toutes ses prérogatives pour le bien des autres. Parce que c'est qu'être Dieu, complètement tourné vers l'extérieur, entièrement au service sacrificiel des autres. Ça peut me sembler un peu choquant, hein, parce que on est tellement accaparé par nos propres besoins, par nos désirs, on a tellement tendance à nous faire une représentation de Dieu à notre image, plutôt que de se rappeler que nous sommes à l'image de Dieu, on a tellement tendance à se faire une représentation de Dieu qui soit à notre image, que de voir qu'être Dieu, c'est précisément l'inverse de ce que nous sommes naturellement, c'est totalement orienté vers les autres, c'est donner plutôt que de chercher à se saisir, c'est abandonner, s'oublier soi-même, plutôt que de vouloir tirer profit pour son propre intérêt. De voir que c'est ça, être Dieu, ça devrait être complètement renverser notre échelle de valeur, n'est-ce pas? Augustin, qui est un des pères de l'Église, a écrit la chose suivante par rapport à Christ. Créateur du ciel, créateur du soleil, et créé lui-même sous le soleil, formant le ciel et la terre, et naissant sous le ciel et sur la terre, ineffablement sage et sagement enfant, remplissant le monde et couché dans une étable, dirigeant les astres et têtant le sein maternel. Le créateur de l'homme se fait homme et se condamne ainsi, lui, le pain de vie, à avoir faim. Lui, la source d'eau vive, à avoir soif. Lui, la lumière du monde, à dormir. Lui, la vérité, à être accusé par de faux témoins. Lui, le juge des vivants et des morts, à être jugé par un mortel. Lui, la justice, à être condamné. Lui, la vie éternelle, il choisit de mourir. Voilà ce que ça veut dire, être à l'image de Dieu, être à la ressemblance de Dieu. C'est ce qu'on voit encore au verset 7. Regardez le verset 7. Il dit que Christ s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Et c'est très important de comprendre cette expression de se dépouiller ici, parce que beaucoup de personnes ont voulu se saisir de cette expression hors contexte pour dire que Christ, en venant de le monde, est devenu moins que Dieu, il a perdu de ses attributs divins, et finalement, il n'était pas réellement Dieu. Mais regardez encore une fois ce qui est écrit exactement ici. Il est dit, mais il s'est dépouillé. Comment? En prenant une condition de serviteur. C'est en prenant sur lui, c'est en prenant en union avec lui-même une humanité comme la nôtre, une condition comme la nôtre, que Christ s'est dépouillé. On peut dire il y a une soustraction, mais par addition. Il y a un dépouillement, et pas dans le sens de perte de quelque chose, mais un dépouillement par accumulation. Et Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Il a toujours été Dieu pendant tout son temps sur cette terre, mais son identité divine, on pourrait dire, était comme voilée par son humanité. Et ça nous aide à comprendre ces passages dans les évangiles où on voit Jésus qui, voilà, il a faim, il a soif, il est fatigué, il est ignorant de certaines choses, etc. etc. Il voile sa gloire. C'est pour nous aider à comprendre. Je vais prendre une illustration. Je sais pas si vous avez vu, hein, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois déjà, on a entendu parler dans les nouvelles d'un journaliste qui a voulu faire un reportage parmi les sans-abri. Il a tellement voulu que son reportage soit véridique, c'est vraiment habillé en mendiant, il est allé vivre parmi les sans-abri et dormir avec eux, manger avec eux, etc. Il vit dans des conditions tellement extrêmes qu'en fait il est décédé en écrivant ce reportage. Et ouais, en essayant de prendre cette identité, en s'habillant comme un mendiant, en vivant comme eux, il n'a pas changé de statut, c'est toujours le même journaliste. D'accord, il avait toujours la même identité, le même statut, les mêmes qualités, les mêmes capacités. Et de la même manière, Christ n'a pas échangé sa condition divine contre une nature humaine, mais il a pleinement manifesté la majesté divine dans les limitations que nous connaissons, avec le mal de dos, avec la fatigue après avoir eu une heure de sommeil en moins cette nuit. Il a réellement envoyé le roi de gloire en habit de mendiant. Si vous allez dans la région d'où je viens, en Suisse, dans les Prêtres de Suisse, vous allez à certains de ces endroits très, très, vraiment magnifiques, vous avez des gorges. Et surtout dans cette période de l'année, il y a toute la neige qui est sur les montagnes qui se met à fondre. Donc vous avez toute la neige qui fond et tous les torrents et les ruisseaux de toutes les montagnes environnantes qui se rejoignent et qui forment un courant puissant qui passe par ces gorges et qui balaye tout vraiment sur son passage. Vous voyez, avec Christ, c'est un peu la même chose. C'est l'immensité de la bonté, de la majesté, de la gloire de Dieu déversée dans la fragilité d'un homme. Un homme, verset 8, s'est humilié. Humilié lui-même, verset 8, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Mais plutôt que de tirer profit pour lui-même, pour son propre intérêt, au détriment des autres, en se servant de son égalité avec Dieu comme d'une excuse pour éviter la souffrance et la mort, Christ a compris son égalité avec Dieu comme le désignant lui seul apte et qualifié pour accomplir cette mission rédemptrice. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Seulement Dieu peut être obéissant jusqu'à la mort. Parce que pour tous les êtres humains depuis Adam, la mort, c'est pas un acte d'obéissance, c'est une nécessité. C'est ce qui arrive. On ne choisit pas de mourir, on n'obéit pas de mourir, on meurt. Seulement Dieu peut être obéissant jusqu'à la mort. Et vous voyez, Christ était le seul apte et qualifié pour accomplir le salut dont nous avions tellement besoin. Et c'est pour ça qu'il a été écrasé, comme on l'a vu tout à l'heure, écrasé par la colère de Dieu en Ésaïe 53. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré, frappé par Dieu et humilié, transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, chacun suivait sa voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. En trois heures sur la croix, Christ a fait l'expérience de bien plus, de quelque chose de bien plus terrible encore,
que tous nos enfers réunis. L'éternité passée loin de Dieu, en 3 heures, sur la croix, il a tout connu et bien plus encore. Comment est-ce que je peux dire ça? Eh bien parce que par ses meurtrissures, je suis guéri. Toute la dette est payée. Tout est accompli.
Jean Calvin a écrit ceci concernant l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Il a dit, il s'est humilié pour nous exalter, il s'est asservi pour nous affranchir, il s'est appauvri pour nous enrichir. Il a été vendu pour nous racheter, captif pour nous délivrer, condamné pour nous absoudre. Il a été fait malédiction pour notre bénédiction. Il a été défiguré pour nous figurer. Il est mort pour notre vie, si bien que par lui la sévérité est adoucie, le courroux est apaisé, les ténèbres éclaircies, le péché empêché, le mépris maîtrisé, la crainte assurée, la dette acquittée, le labeur allégé, la tristesse réjouie, la division unie, la rébellion assujettie, la damnation damnée, l'enfer enferré, la mort morte, la mortalité immortelle. Bref, en 3 heures sur la croix, l'amour a englouti tout mal. Voilà l'attitude du Christ. L'attitude de renoncement total à lui-même dans l'humilité. Je vous propose qu'on fasse, une fois n'est pas possible, une pause ici. On va prendre le repas du Seigneur maintenant et je terminerai mon message tout à l'heure. Je vous invite à passer maintenant donc à notre temps de repas du Seigneur ensemble. On va commencer ce moment par un chant d'un concile. Je vous invite à ouvrir vos cantiques. C'est le chant numéro 117. Qu'est-ce que vous avez dit? Une habitude, mais une bonne manière de le faire comme ça. On va en venir à la deuxième partie tout de suite, qui est beaucoup plus pratique, sera plus courte aussi. Mais juste avant qu'on en vienne vraiment à l'attitude du chrétien dans l'Église, on va juste vous relire les deux trois derniers versets, les versets 9 à 11, juste pour qu'on voit encore un élément. Je voudrais vous faire ressortir encore une chose dans ces versets-là. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est aussi pourquoi, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est donné lui-même, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun prie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. C'était encore la dernière phrase. À la gloire de Dieu le Père. Le temps dans l'abaissement et la souffrance la plus extrême, comme on l'a vu tout à l'heure, que dans l'exaltation et l'élévation, Christ ne fait rien pour son propre intérêt. Il s'abaisse pour nous sauver. Lorsque le Père l'exalte, parce que Dieu exalte les humbles, eh bien, il rend toute la gloire à Dieu. À la gloire de Dieu le Père. Tant dans la souffrance que dans la gloire, Christ s'oublie pour les autres. Pour le bien des autres. Et ça m'amène donc à mon second point par rapport à l'attitude du chrétien. À quoi est-ce que ça ressemble d'avoir cette attitude-là de Christ dans l'Église? À quoi est-ce que ça ressemble? Et Paul nous l'explique un tout petit peu au verset 3 et 4. Et je propose qu'on relise ces deux versets. Paul dit au verset 3, « Ne faites rien, premièrement, par esprit de rivalité. » Ou, deuxièmement, par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Vous voyez, Paul nous montre dans ce verset qu'il y a deux attitudes contraires à l'humilité. Il y a deux aspects de l'orgueil. On peut dire l'orgueil a deux visages. qui nous dit ne faites rien par esprit de rivalité, premièrement, ou par désir d'une gloire sans valeur. Premièrement, ne faites rien par esprit de rivalité, c'est-à-dire ne faites rien avec arrogance, en prenant les autres de haut et en les regardant avec mépris, en étant tellement enflé d'orgueil, on peut dire, en ayant une opinion tellement haute de soi-même qu'on considère les autres finalement avec mépris. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, c'est-à-dire avec vanité, une vanité qui nous pousse à envier les autres, avoir une opinion finalement tellement basse, tellement médiocre de soi-même, être dans une telle insécurité, une telle insatisfaction, qu'on finit par jalouser les autres. Vous voyez, il y a deux visages à l'orgueil, il y a deux tendances. Et ces deux tendances, il me semble, décrivent très bien notre manière d'interagir les uns avec les autres. Je ne dis pas forcément ici, mais de manière générale. Parce qu'on est sans arrêt en train de se comparer, n'est-ce pas? Sans arrêt en train de se comparer. Et mon attitude envers les autres reflète toujours l'opinion que j'ai de moi-même. Soit on dénigre les uns parce qu'on a une haute opinion de nous-mêmes, on a un sentiment de supériorité, soit on envie les autres parce qu'on a un sentiment d'infériorité. Vous voyez, quelle que soit notre conduite envers les autres, elle reflète toujours l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Réfléchissez par exemple assez pratiquement, c'est même dans la semaine qui s'est écoulée, quand quelqu'un vous a critiqué, quand quelqu'un vous critique, quelle est votre réaction naturelle? Alors, ça peut changer d'une fois à l'autre, bien sûr, mais quelle est votre réaction naturelle? Est-ce que vous avez tendance à exploser, à vous énerver, et à répondre en ripostant directement, en essayant de montrer aussi ce qui va passer l'autre? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez plutôt tendance à répondre sur la défensive, à vous renfermer sur vous-même dans une sorte d'introspection un peu morbide? Vous réfléchissez, quelle est votre réaction lorsque vous regardez ce qui vous entoure? Est-ce que vous avez plutôt tendance à dire: ouh là là, moi je ne pourrais jamais tomber dans ce travers-là. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes plutôt découragé et vous dites: mais pourquoi est-ce que je ne suis pas comme ça? Et il y a deux tendances qui peuvent nous habiter, mais dans les deux cas, et c'est ça que j'aimerais vous montrer, dans les deux cas, c'est une forme d'orgueil. On a tendance à croire que c'est seulement d'avoir une trop haute opinion de soi qui est une forme d'orgueil. Mais avoir une opinion trop basse, trop médiocre de soi, c'est aussi une forme d'orgueil, parce que ça montre notre insatisfaction et notre envie d'être à la place des autres. Ça fait que tourner autour de nous, toujours. C'est Lewis qui est cet auteur qui a écrit les Chroniques de Narnia, c'est ce qu'on entend du prénom, C.S. Lewis. Il a dit une chose très intéressante sur l'humilité. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit: l'humilité véritable n'est pas d'avoir une mauvaise opinion de soi, mais c'est de cesser de penser à soi. L'humilité véritable, ce n'est pas d'avoir une mauvaise opinion de soi, mais c'est de cesser de penser à soi. Et je crois qu'il y a des choses de très importantes aussi, parce qu'on pourrait penser que Paul, en train de dire aux Philippiens d'avoir de se sentir tout misérable et d'avoir une pauvre opinion d'eux-mêmes, mais c'est pas ça qu'il est en train de leur dire, parce qu'il parle à des chrétiens citoyens du royaume de Dieu, on l'a dit, rachetés par le sang précieux de Christ. Ce qu'il est simplement en train de leur dire, c'est: arrêtez de penser à vous. C'est tout. Arrêtez de penser à vous. Ayez l'attitude de Christ qui a tout abandonné, qui s'est oublié lui-même pour le bénéfice des autres. Plutôt que de voir, par exemple, les capacités, vous avez les dons que vous avez, les ressources, les richesses matérielles, c'est même ce que vous avez, que Dieu vous a donné comme des choses à utiliser, à tirer profit pour vous-même, quelque chose à utiliser pour votre propre avantage. Considérez ces choses comme vous désignant vous, vous qualifiant vous désignant comme seul apte pour servir vos frères et sœurs dans tel ou tel domaine. On a tous des qualités qui peuvent être mises au service des autres. C'est pas ça qui manque. Ce qui manque, c'est la volonté de se mettre au service des autres. Essayez de vous imaginer à quoi ça pourrait ressembler, un lieu de travail, une famille ou une église, où chacun, à l'image de Christ, s'oublie soi-même,
et cherche à servir les autres dans un esprit de sacrifice. Essayez de vous imaginer à quoi ça pourrait ressembler. J'aimerais conclure mon message avec une histoire. J'espère que cette histoire va vous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à avoir cette attitude-là. Parce que c'est bien joli de dire qu'il faut avoir l'attitude de Christ les uns envers les autres, il faut s'oublier soi-même. Mais comment? Et j'espère que cette histoire va nous aider un tout petit peu à avoir des pistes en tout cas. C'est une histoire qui est racontée par un homme qui s'appelle John Carson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un professeur assez reconnu qui enseigne des fois en France. Il est québécois d'origine. Il raconte qu'il y a une vingtaine d'années, on lui a demandé d'interviewer deux très grandes personnalités, qui s'appellent Carl Henry et l'autre Kenneth Sanger. On ne les connaît pas vraiment ici, mais c'était deux personnalités très fortes, deux personnes très influentes dans le monde évangélique et même au-delà du monde évangélique. Ils avaient tous écrit beaucoup de livres, ils avaient fondé une université qui est parmi les plus réputées aujourd'hui aux États-Unis. Et je paraphrase un petit peu, mais voilà la dernière question que Carson leur a posée à la fin de l'interview. Il leur a dit, vous avez tous les deux été extrêmement influents pendant près d'un demi-siècle, et pourtant aucun d'entre vous n'est orgueilleux ou fier de son succès. Qu'est-ce qui vous a préservé de ces dangers-là? Et voilà la réponse qu'ils lui ont donnée. Ils ont dit, comment donc peut-on être orgueilleux lorsqu'on se tient à côté de la croix? Comment puis-je avoir une haute opinion de moi-même quand je me tiens à côté de la croix? Parce que c'est mes fautes qui lui ont cloué. Mais comment, à l'inverse, puis-je avoir une opinion trop médiocre de moi-même quand je me tiens à côté de la croix? Parce que c'est pour moi que le Fils éternel de Dieu s'est abaissé, qu'il a tout abandonné et qu'il a versé son sang. C'est pour nous donner une nouvelle identité en lui. Nous sommes en Christ, nous sommes citoyens du royaume de Dieu si nous avons passé notre confiance en lui. Et vous voyez, finalement, c'est ça qui peut nous libérer de notre orgueil. C'est ça qui peut nous amener à renoncer à nous-mêmes, c'est de nous rappeler que nous sommes en Christ. J'ai juste m'arrêter une seconde, je pense qu'on me dérange. Voilà, je l'entends. Et je crois que c'est ça qui nous amène à pouvoir être libérés de notre orgueil et nous amener à renoncer à nous-mêmes. C'est de nous rappeler que nous sommes en Christ. Et de la même manière que Christ n'avait pas de destinée dans ce monde, il est né pour mourir. C'est le monde qui trouve sa destinée en lui. De la même manière que Christ n'avait pas de destinée dans ce monde, nous n'avons pas de destinée dans ce monde. Vous n'avez pas de destinée dans ce monde. Votre identité est en Christ. Vous voyez, au bout du compte, ce que vous êtes aux yeux du monde, ce que vous êtes aux yeux des autres dans l'Église, ce que même vous êtes à vos propres yeux n'a finalement aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous êtes aux yeux de Dieu. Je crois que c'est de cette manière-là, et comme ça je termine, c'est de cette manière-là que je crois qu'on peut garder l'unité dans une église en essayant de grandir tous dans la conscience, en prenant toujours plus conscience de quelle est notre identité en Christ. On n'a pas besoin du regard des autres, que nous sommes en Christ, nous sommes à vie. Voilà, je termine ici et je vous propose de répondre à cette prédication par la prière, que l'un ou l'autre d'entre nous veulent prier, et je conclurai tout à l'heure.